Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Guillaume Nodin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appel sur l'actualité. Dans une demi-heure, ce sera le débat sur la crise malienne et l'avenir du mouvement du 5 juin, le M5. Mais pour l'instant, et comme d'habitude, place à vos questions à la rédaction de RFI. On commence tout de suite avec Innocent qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Innocent.
Oui, bonjour Guillaume.
Vous voulez nous parler de la marée noire à l'île Maurice?
Effectivement, j'ai des questions à poser, mais la semaine dernière, le Premier ministre de l'île Maurice a déclaré l'état d'urgence environnementale après qu'un vraquier s'est échoué au large des côtes et que 100 tonnes de camions sont échappées. Alors, j'ai deux interrogations à vous poser.
Alors, la première.
Comment les autorités mauriciennes font-elles face à ce désastre? Ont-elles les moyens de répondre efficacement à l'événement?
Eh bien, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Abdoulaye Rally, notre correspondant à Port-Louis. Bonjour Abdoulaye, ça fait longtemps, ça fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir en effet. Bonjour Guillaume et bonjour à Innocent.
Et vous avez entendu la question d'Innocent. Comment les autorités mauriciennes font-elles face à ce désastre? Est-ce qu'elles ont besoin de répondre, est-ce qu'elles ont les moyens de répondre efficacement à l'événement?
Oui, alors oui, cet événement, Guillaume, a mis en évidence le niveau d'impréparation de Maurice dans ce genre de situation. Il existe bel et bien un plan d'intervention avec différentes équipes formées ici. Il existe aussi une logistique dédiée pour lutter contre le déversement d'hydrocarbures, mais elles ont été rarement mises à l'épreuve. Quand Maurice a appris le naufrage du Wakashio, tous les moyens étaient disponibles, ont été déployés dès le lendemain. Quand la population et les autorités ont vu ce déploiement de barrages flottants et les équipes mobilisées, c'était des images très rassurantes. Pendant 10 jours, ces équipes guettaient la moindre fuite de pétrole du navire et alimentaient la population d'informations par voie de communiqué régulièrement. Et donc il y avait une bonne mobilisation, une bonne communication. Mais le jour où le navire a commencé à relâcher du fioul dans les eaux, ça a été, pardonnez-moi un peu l'expression, ça a été la débandade. Les équipes d'intervention n'étaient pas rodées pour du vrai et les moyens étaient largement insuffisants. Et le désastre aujourd'hui, c'est dommage de le dire, en témoigne.
Et les barrages dont vous avez parlé, Abdoulaye, ils n'ont pas aidé?
Oui, ces barrages, en effet, ont été peu utiles. Maurice disposait d'environ 300 mètres de barrages flottants, mais le navire déjà fait 300 mètres de long et 50 mètres de large. Donc ces barrages, si je peux dire, ressemblaient à des gadgets face à l'immensité de la tâche pour contenir cette pollution. Quand le déversement a commencé, les Mauriciens ont pu voir une très longue traînée de pétrole filer dans le lagon bleu et clair de Maurice, faut-il le dire. Ils ont assisté, impuissants, à la formation de nappes noires et la pollution sur les plages et sur le front de mer de Maïbourg qui est un village historique entouré de réserves naturelles.
Innocent, vous avez une deuxième question pour Abdoulaye Rally.
Oui, évidemment, j'ai une deuxième question encore. Quels peuvent être les effets de cette marée noire sur la faune et flore aux alentours?
Abdoulaye, votre réponse?
Le premier constat, il est visible, hein, en sus de ces traînées noires sur la mer et la formation de nappes de pétrole qui polluent l'eau et les créatures marines, nous avons assisté à l'asphyxie des poissons. En sus de cet impact direct, la population a assisté à la transformation des plages en bitume. Les rochers sur le front de mer ont été couverts de cette masse visqueuse, noire. Tout est devenu méconnaissable du jour au lendemain. Alors c'est déprimant, hein. Les gens, sur les témoignages que j'ai recueillis personnellement, les gens ont pleuré devant ce spectacle, ce triste spectacle. Donc dans cette zone se trouve en sus de cela le parc marin de Blue Bay, réputé pour ses coraux, et puis des îlots protégés, notamment comme l'île aux Aigrettes, une réserve avec des oiseaux en danger qui ont été déplacés d'ailleurs. Donc des endroits idylliques qui sont en danger, et ma réponse n'est pas rassurante ni pour vous Guillaume, ni pour Innocent du Cameroun. Cette régénération va prendre des décennies à écouter la parole des experts.
Merci Abdullah Erali. Innocent, est-ce que Abdullah a répondu à vos questions ?
Très bien, merci beaucoup, Guillaume, merci.
Avec grand plaisir, merci Innocent et merci Abdullah Erali. On va maintenant au Tchad, à N'Djamena, pour retrouver Jim Rangar, bonjour.
Bonjour RFI, bonjour, bonne fête de l'indépendance à tous les peuples italiens.
Oui, c'était hier, absolument, on était en édition spéciale, vous avez raison de le rappeler. Jim Rangar, vous voulez parler de la situation au Liban et de la démission du gouvernement d'Hassan Diab.
Oui, le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé lundi la démission de son gouvernement, moins d'une semaine après l'explosion dans le port de Beyrouth, et plusieurs jours de manifestations dans le pays. Alors je me demande comment cette démission a-t-elle été accueillie par les Libanais ? Les mobilisations vont-elles se poursuivre ?
Alors, nous allons rejoindre tout de suite Paul Ralifet, qui est notre correspondant à Beyrouth. Bonjour Paul.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
On espère que vous tenez le coup, Paul. Vous avez entendu la première question de Jim Rangar. Comment cette démission a-t-elle été accueillie et est-ce que les mobilisations se poursuivent ?
La démission de Hassan Diab a été accueillie avec indifférence par les Libanais, car la plupart estiment que cette décision ne satisfait pas leur aspiration à construire un État débarrassé de la corruption, du clientélisme, de l'incurie. Celles et ceux que nous avons interrogés, et beaucoup d'avis qui sont recueillis par les médias, disent que derrière Hassan Diab se cachent les véritables détenteurs du pouvoir, qui est une oligarchie qui se partage l'État, ses institutions, ses administrations, ses ressources sur des bases confessionnelles.
Le problème ne vient donc pas d'un homme en particulier, mais de tout un système, un système politique.
Oui, un système appelé au Liban le confessionnalisme politique, qui consiste en une répartition des fonctions politiques et des postes administratifs entre chrétiens et musulmans. Alors le président de la République est toujours chrétien maronite, le chef du législatif est un chiite, le premier ministre est un sunnite, et ainsi de suite. Dans ce système, l'État abandonne donc une partie de sa souveraineté aux chefs des communautés qui nomment au poste clé leurs partisans. Et naturellement, l'allégeance de ces partisans va à leur leader plutôt qu'à l'État. Ce système où la compétence n'est plus le critère fondamental pour le choix des fonctionnaires, des magistrats, favorise donc la corruption. Et c'est la corruption, la négligence, l'insouciance, l'incurie qui sont responsables de la catastrophe de Beyrouth.
Alors Paul, vous avez entendu également la deuxième partie de la première question de notre auditeur. Les mobilisations se poursuivent-elles ?
La mobilisation, elle n'a pas baissé même après la démission de Hassan Diab. Hier encore, des manifestants ont affronté les forces de l'ordre dans le centre-ville de Beyrouth, pas loin du Parlement. La pression de la rue va probablement se poursuivre, surtout que les gens vivent dans des conditions très difficiles, avec une crise économique et financière sans précédent, qui a plongé en quelques mois seulement 50% des Libanais sous le seuil de la pauvreté et qui a laminé la classe moyenne. Les gens n'ont plus rien à perdre.
Jim Rangar, vous avez une deuxième question.
Oui, justement. Quelles personnalités politiques peuvent prendre la suite et satisfaire des manifestants hostiles à la classe politique libanaise ?
Paul Ralifet.
Les noms qui circulent en ce moment sont ceux de l'ancien ambassadeur du Liban aux Nations Unies, Nawaf Salam, et de l'ex-premier ministre Saad Hariri. Alors, vous le voyez bien, ces deux personnalités viennent de la classe politique qui règne sur le pays et qui est rejetée par le mouvement de contestation. Le nom de Nawaf Salam avait déjà été évoqué en novembre dernier, avant la nomination de Hassan Diab, qui, il faut le rappeler, est un professeur d'université qui, lui, ne venait pas du club politique traditionnel. Le Hezbollah et ses alliés avaient refusé la venue de Salam, qu'ils considèrent trop proche de l'Occident. Le premier ministre au Liban, il est choisi par le Parlement, qui est contrôlé par les partis politiques traditionnels, qui, il ne faut pas s'y tromper, ont leurs partisans et ont leur base populaire. Alors, le prochain chef du gouvernement sera choisi par cette classe politique et non pas par le mouvement de contestation, qui n'a aucun levier pour l'instant sur les institutions constitutionnelles.
Merci Paul Ralifet en direct de Beyrouth. Jim Rangar, je pense que Paul a à peu près, ou assez complètement même, répondu à vos questions.
Oui, je suis vraiment satisfait, merci.
Merci à vous de nous avoir appelés. Nous passons maintenant à Alidor qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Alidor.
Bonjour Guillaume Nodin, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous voulez nous parler de la présidentielle en Biélorussie?
Absolument. Le président sortant, Loukachenko, a été réélu avec plus de 80% des voix. Mais des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes pour contester le scrutin. Et ma première question, je voudrais savoir comment expliquer un score aussi large de Loukachenko? Et est-ce qu'il continue à être populaire ou bien le scrutin a été truqué, comme on peut le dire?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Alexandra Goujon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez entendu la question d'Alidor. Comment expliquer un score aussi large? Et est-il aussi populaire que ça?
Alors, le score a été annoncé par la commission électorale centrale, dans laquelle il n'y a que des fidèles, j'allais dire, au président. Et en fait, aujourd'hui, l'Union européenne annonce que les élections étaient ni libres ni justes. Alors, il faut savoir qu'en Biélorussie, il y a un contrôle de la procédure électorale par les autorités en place. Et ce qu'on a pu constater, c'est que dans des bureaux de vote très très proches, certains bureaux de vote ont annoncé des résultats complètement contraires, avec la candidate de l'opposition aujourd'hui réfugiée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaya, ayant pu obtenir jusqu'à 70%. Alors c'est très très difficile à évaluer, il n'y a pas de sondage de sortie des urnes, on va dire, fiable. On a aussi par exemple, aujourd'hui, il y a eu quelques écoutes, en fait, quelques réunions enregistrées où on aurait officiellement demandé à des bureaux de vote de modifier les résultats. Donc aujourd'hui, l'opposition cherche notamment à faire la vérité sur le comptage des voix et essayer de voir, d'élucider là où il y a eu des falsifications. Mais bien évidemment, les manifestations et la répression aujourd'hui qui s'expriment en Biélorussie, laisse un petit peu de côté tout cet aspect, si je puis dire, légal.
On retourne à Kinshasa pour retrouver Alidor. Vous avez une deuxième question pour Alexandra Goujon.
Effectivement, Alexandra parle de l'Union européenne qui se montre effectivement très critique à cette élection controversée. Quel est le rôle qu'elle pourrait jouer pour apaiser les tensions entre opposition et pouvoir?
Alexandra Goujon, votre réponse?
Alors c'est très compliqué parce que l'Union européenne a essayé déjà plusieurs tactiques vis-à-vis de ce régime biélorusse. Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans. Il y a déjà eu des sanctions à l'égard du pays. Ces sanctions ont été levées en 2016 parce que voilà, les relations s'étaient assouplies. Il faut savoir que l'Union européenne n'aime pas utiliser les sanctions. Elle le fait en dernier recours. Mais aujourd'hui, c'est un des pays européens avec lesquels elle a vraiment le plus de mal. Donc, bien évidemment, elle essaye de faire pression, tout d'abord des pressions politiques, en condamnant notamment les répressions, en demandant la libération des prisonniers politiques. Mais on l'a vu, depuis déjà de nombreuses années, ces pressions ont assez peu d'effet. On a vu aussi notamment le président russe féliciter Alexandre Loukachenko pour sa victoire. Donc, l'Union européenne va jouer de cette pression politique. Les sanctions sont déjà évoquées, mais pour ce faire, il faut l'unanimité des États membres et certains ont déjà évoqué leur réticence face à une stratégie qui serait plus dure.
Merci Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Alidor, vous avez totale satisfaction, je pense?
Absolument, je crois que c'est très satisfait. On dit justement, c'est fait attendre.
Merci beaucoup, Alidor. Nous sommes maintenant en ligne avec Jamel, qui est à Nosibé, à Madagascar. Bonjour, Jamel.
Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous.
Vous voulez nous parler, évidemment, du grand événement de la soirée, le tournoi final de la Ligue des Champions qui débute à Lisbonne avec le Paris Saint-Germain qui joue ce soir.
Exactement. Donc, déjà, je voudrais dire un joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain qui fête ses 50 ans aujourd'hui.
C'est vrai.
Et puis, ce soir, ils affrontent l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Champions League qui se déroule à Lisbonne. Et quand on sait que beaucoup de ces cadres sont incertains pour ce match, je me demande quelle est la stratégie de jeu de l'équipe parisienne ce soir.
Alors, Thomas de Saint-Léger du service des sports nous a rejoint. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour Jamel.
Alors, la question de Jamel, quelle stratégie en fonction des incertitudes des uns et des autres?
Oui, il y a des incertitudes et il y a même des forfaits déjà actés pour deux de ces cadres. Marco Verratti blessé et Andrel Di Maria suspendu, condamné à suivre le match en tribune ou sur son canapé. La seule véritable incertitude, en fait, elle concerne Kylian Mbappé. Les derniers signaux sont plutôt positifs, mais ce sera au mieux et sauf énorme surprise pour une entrée en fin de rencontre. Vous avez compris le problème, Guillaume, il y a trois joueurs majeurs du système Tourelle à remplacer et pour remédier à ce problème, l'entraîneur allemand devrait renoncer à son habituel 4-3-3, changement de système attendu face au pressing bergamasque. Le milieu serait renforcé et disposé en losange, a priori avec Marquinhos, le Brésilien devant la défense, devant lui Gay, le Sénégalais associé à Herrera ou Paredes, sachant que l'Espagnol, le premier nommé, tient plutôt la corde. Un cran plus haut, on aurait bien sûr Neymar attendu à la baguette en soutien des deux attaquants, très probablement Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Je n'ai pas évoqué les lignes défensives parce que là, sauf coup de théâtre, ce sera du grand classique. Navas dans les cages, la défense de gauche à droite, Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Kerrer, tout ça reste quand même au conditionnel. La réponse définitive, soyez patients, vous l'aurez au moment de la prise d'antenne sur RFI pour cette soirée spéciale. On rappelle que le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h, temps universel.
Ouais, pas facile de résister au pressing de l'Atalanta, pressing offensif, notamment avec deux milieux de terrain de la dimension de Marco Verratti et Andrel Di Maria sur le flanc. Vous avez une deuxième question, une question complémentaire, Jamel?
Oui, en fait, en raison du coronavirus, le PSG a moins joué que les autres équipes européennes. Alors, du coup, est-ce que c'est un élément qui pourrait jouer en sa défaveur?
Thomas de Saint-Léger, le Covid à Paris.
Ouais. Question compliquée et réponse malhonnête de ma part. Désolé, ça dépend de quel côté vous vous situez en fait.
Vous êtes honnête en disant que vous êtes malhonnête.
Voilà, on va dire ça comme ça. Soit vous vous dites que le PSG est plus frais, c'est un fait. Depuis l'interruption de la Ligue 1 en mars, les Parisiens n'ont joué que deux matchs officiels, deux finales, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Soit vous vous dites que les joueurs de Thomas Tuchel sont encore un peu courts physiquement face à des adversaires qui, eux, ont repris le championnat au mois de juin et qui ont enchaîné depuis 13 rencontres. Paradoxalement, les deux équipes, pour les raisons différentes qu'on vient d'évoquer, ont semblé dans le dur physiquement ces derniers temps. Les Bergamasques ont eu du mal dans les dernières rencontres de Serie A à terminer ce championnat. Les Parisiens, eux, n'ont pas vraiment écrasé la concurrence. Hein. Loin de là, lors des deux finales qu'ils ont disputées face à Saint-Etienne et face à Lyon. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, la préparation physique, elle a été axée sur ce rendez-vous de Lisbonne, cette finale à 8, que le groupe doit aborder normalement dans un pic de forme. On va savoir très vite si le calcul a été bon ou pas du côté du staff technique de Thomas Tuchel.
Merci Thomas de Saint-Léger. Jamel, à Nocibé, vous êtes satisfait? Vous êtes peut-être un peu inquiet aussi?
Oui, je suis très satisfait de la réponse et surtout j'ai hâte de revivre cette soirée avec RFI.
Alors justement, on va rappeler le dispositif, on a quelques secondes, Thomas de Saint-Léger,
ah oui.
19h temps universel, coup d'envoi du match.
C'est ça, avec plusieurs de nos journalistes du service des sports qui seront, il faut le préciser, en studio. On n'a pas pu évidemment se rendre à Lisbonne pour les questions que l'on sait. Il y aura Cédric d'Olivera, Christophe Jousset et Martin Guest pour les réseaux sociaux. Vous pourrez lui poser les questions, il les transmettra à ceux qui commenteront la rencontre.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger. Cette première partie d'appel sur l'actualité s'achève. Merci à vous pour vos questions et aux journalistes de la rédaction ainsi qu'à nos spécialistes pour leurs réponses. Dans 10 minutes, juste après le journal de Clémentine Pavlotsky, ce sera le débat. Après les derniers développements de la crise malienne et une nouvelle manifestation hier à Bamako pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, quelle suite et quel avenir pour le mouvement du 5 juin? Nous attendons vos appels.